Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche, consacrée aujourd'hui à la Basse Marche au temps des Gallo-Romains. Ce sera notre 292e émission et notre 187e chronique. Pour les textes, j'ai fait appel aux auteurs et aux ouvrages suivants. Désiré Brélingard, Histoire du Limousin. Jean Perrier, Carte archéologique de la Gaule, section La Haute-Vienne. René Bobéro, entre autres, Les découvertes gallo-romaines de Rancon, Les découvertes de la Bussière étable, Les découvertes gallo-romaines dans la région de Château-Ponsac. Roger Drouot, monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles. René Lacotte, mine et métallurgie ancienne en basse marche. Et l'abbé Roy Perfitte, histoire de Bellac.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
On nous dit que les Gaulois, les Movices, constituaient un peuple fier et indépendant et donc ils ne se soumirent pas volontiers à la domination romaine. Ils auraient largement participé à l'armée de secours destinée à aider le jeune chef Arverne vers Saint-Gétorix, bloqué à Alésia. Vercingétorix s'étant livré à César, les Lémovices, comme la plus grande partie des peuples de la Gaule centrale, se rendirent. Deux légions romaines vinrent alors prendre leur quartier d'hiver dans le pays en 49 avant Jésus-Christ. Les Lémovices vaincus comprirent vite la supériorité de la civilisation romaine. Ils acceptèrent la domination des vainqueurs qui ne s'installèrent pas comme des envahisseurs, mais surent respecter les mœurs, les usages, la religion, la langue des Lémovices. Voici ce qu'écrit l'historien creusois Désiré Brélingard. La domination romaine a moins créé à proprement parler que précisé et ordonné les traits hérités des époques préhistoriques et gauloises. Et il donne des exemples. Le fond de population n'a pas été modifié. Les Romains ne s'installant pas dans le pays comme des envahisseurs précédents. Avec la prédominance grandissante des grands propriétaires terriens, la structure sociale s'est affirmée, ainsi que l'autonomie locale du point de vue administratif. Les agglomérations grandissent et se transforment, mais restent souvent fidèles aux sites néolithiques ou gaulois. Cet héritage, Rome l'a façonné pendant plus de 4 siècles, en imposant la paix et l'ordre. En introduisant une civilisation plus avancée, elle a marqué le Limousin d'une marque indélébile. Alors certes, en Basse-Marche, nous n'avons pas de grands sanctuaires ou des thermes comme à Chassenon, des cirques comme à Limoges ou de grandes voies romaines. Nous allons nous intéresser à quelques témoignages locaux de cette nouvelle civilisation qui emprunte aussi bien aux Gaulois qu'aux Romains. Les routes et les bornes routières, les centres urbains comme Rancon ou Blon, les fermes, les villas, les cimetières, les sépultures, les arts, les monnaies, et nous terminerons par les camps militaires. Nous allons commencer par les routes. Avec l'occupation romaine, nous imaginons le pays équipé d'un maillage serré de voies dites romaines, larges, solides, bien pavées. Notre imagination nous égare un peu. Certes, les Romains étaient de fameux constructeurs de routes, mais nous avons une fâcheuse tendance à leur attribuer des voies qui furent tracées bien avant la conquête ou qui furent pavées bien après eux, par exemple au XVIIe siècle. Dans l'ouvrage « La carte archéologique de la Gaule de la Haute-Vienne », Jean Perrier explique « L'habitat de la période de l'indépendance gauloise semble privilégier les hauteurs. À l'époque romaine, on a continué à utiliser les voies pré-romaines comme les pouges, des crêtes, avec des aménagements ponctuels. Seuls quelques grands axes de communication, éléments d'une stratégie politique, furent créés comme la voie de Lyon à Saintes qui passe par Limoges. Concernant le nord de la Haute-Vienne, sur quels documents pouvons-nous nous appuyer ? Les documents anciens, comme l'itinéraire d'Antonin, rédigé sous Dioclétien de 284 à 305, ou la fameuse table de Peutinger, qui est la copie d'une carte du IVe siècle, qui nous indique qu'une seule grande voie traversait notre zone, celle qui relie Limoges à Argenton-sur-Creuse, par Compreignac et Saint-Léger-Magnazet. Deuxième indication, les toponymes, les noms de lieux dits, qui nous indiquent de nombreux chemins de hauteur, les pouges, à Château-Ponsac, à Montreuil-Sénart, à Saint-Amand-Magnazet, des chemins ferrés, sous le nom de l'Eutrade, Intrade, l'Estrade, l'Étrille, comme à Château-Ponsac, à Oradour-Saint-Genès ou à Jouac. Notons aussi que les érudits locaux nous signalent des tronçons de voies antiques à Montreuil-Sénart, à Nouic, à Redour-Saint-Genès, à Villefavard, à Blanzac, à Rancon, à Château-Ponsac. Il y a encore les bornes routières de l'époque romaine qui sont de très bons indicateurs. À Dompierre-les-Églises, avec une inscription qui nous signale le décès de Saturninus Macarius au cours d'un voyage. On trouve plusieurs bornes milières qui jalonnaient les voies tous les 1000 pas, c'est-à-dire tous les 1470 mètres. À Lussac-les-Églises, à la Bussière-Étable, dans la commune de Château-Ponsac, à Saint-Léger-Magnazet, où elle est dédiée à l'empereur Tétricus. Nous savons aussi que ces voies routières serviront, par la suite, de limites administratives. C'est le cas de la voie qui séparait la paroisse de Saint-Barban, qui appartient au diocèse de Poitiers, de celle de Saint-Martial-sur-Isope, qui, elle, appartient au diocèse de Limoges. Il y a encore les patrons des églises qui sont un autre indicateur. En effet, le premier missionnaire des campagnes gauloises fut Saint Martin de Tours. On peut penser que les premières églises furent implantées près des voies de communication et portèrent le nom de Saint Martin. C'est le cas de Blanzac, de Blon, de Comprignac, de Dinsac, de Château-Ponsac pour la chapelle, de Peyrade-Bellac, de Saint-Bonnet-Bellac pour la chapelle.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Alors, quelles sont ces voies pour notre basse marche ? Celles qui reliaient Lyon à Saintes, en passant par A1, Limoges, Chassenon, ne concernent pas notre zone. Par contre, celles qui venaient de Lyon, passaient par Arennes en Creuse, puis rejoignaient Confolens et Charroux, traversaient notre zone, sans doute par Château-Ponsac, Villefavard, Rancon et Droux. Celles de Lyon à Poitiers par A1, et Saint-Léger-le-Guérétois dans la Creuse, passait par Lussac-les-Églises, puis se dirigeait vers la Trimouille. Deux voies nord-sud traversaient notre zone, celle de Limoges à Poitiers par Sieux, Blon et Châteauneuf dans la commune de Saint-Bonnet-de-Bellac, celle de Limoges à Argenton-sur-Creuse, donc par Comprignac et Saint-Léger-Magnazet, dont nous avons déjà parlé. Il s'agit là de voies que l'on peut qualifier de secondaires. À côté de ces voies secondaires, on trouve de nombreuses petites voies locales, par exemple un chemin antique dans la commune d'Oradour-Saint-Genès, qui semble partir de Voulon, dans la commune du Nora, passé par le Moulin du Roi, la Petite et la Grande Intrade, le Mas-sur-Jon, Moulimes, puis se diriger vers Lussac-les-Châteaux, où elle devait rejoindre la voie de Limoges à Poitiers. Dans tous les cas, répétons-nous, ces voies n'étaient pas de larges allées bien dallées comme le montraient les illustrations de nos livres d'histoire. Il s'agit dans la plupart des cas de simples cheminements d'interfluves situés sur les lignes de hauteur, les lignes de partage des eaux, pour éviter les zones humides et les trop grands travaux. Ce sont des voies romanisées plutôt que romaines, car il s'agit en fait de cheminements anciens, datant des Ligures, des Gaulois, qui ont reçu des aménagements. Intéressons-nous maintenant aux villes et aux centres d'activité. C'est le long de ces voies, ou plutôt même au croisement, que vont naître et se développer les bourgs et les villes. Mais il semble bien qu'à cette époque, la Basse-Marche ne possède aucune vraie ville. L'odorat ne naîtra qu'au 7e siècle et Bellac au 10e siècle. Seul Rancon aurait eu une importance de cité, situé sur l'axe antique nord-sud, franchissant la Gartempe par un gué. On y a trouvé un grand nombre de squelettes avec des débris de cercueils, des coffres funéraires contenant des urnes cinéraires, des monnaies de l'époque romaine, des fragments de casques, de tuiles, de briques et des stèles gallo-romaines. Rancon, Ronco Magus, signifie le marché sur la hauteur. Et donc, les nombreuses découvertes que je viens de citer nous permettent d'affirmer que Rancon était une localité qui pratiquait les échanges, le commerce. C'est ainsi, par exemple, que les poteries découvertes proviennent du bassin parisien de l'Aveyron ou de l'Allier, ce qui indique un cercle de relations relativement étendu. Il en va de même pour les monnaies qui y furent découvertes. Notons encore, toujours à Rancon, que la zone de Chasseneuil nous indique que les hommes se sont succédés aux mêmes emplacements depuis l'époque préhistorique. C'est ainsi que, sur ce site de Chasseneuil, on trouve des éléments de l'époque préhistorique, grattoirs, couteaux, perçoirs, haches polies, pointes de flèches, des éléments de l'époque gauloise, c'est le cas du toponyme lui-même, Chasseneuil, la clairière de chêne, du gaulois Cassano, Cassino qui veut dire le chêne, et enfin des éléments de l'époque gallo-romaine.
Petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
Un autre centre urbain important semble être celui de Blon. Blon, ou Blato-Mago, sur des monnaies mérovingiennes, à savoir le marché de Blato, Blato étant sans doute le nom d'une personne gauloise, on a découvert au bois des Tourettes, près de Blon, de vastes exploitations de quartz métallifère, de l'étain, peut-être aussi de l'or. On est donc en présence d'un centre artisanal gallo-romain, un vicus commercial de plus de 10 hectares. C'est sans doute ici que se trouve le site originel de Blon, occupé du 1er au 3e siècle. Par la suite, le village se déplacera vers le sud, auprès de la fontaine Saint-Martin, site actuel de Blon. Les fermes, les villas. Autour de ces bourgs, en pleine campagne, principalement aux abords des voies, existaient d'innombrables fermes ou métairies connues sous le nom de villas. C'est ainsi que le long de la route de la Croix-du-Breuil, actuelle commune de Bessines à Villevite, commune de Rancon, on a découvert 9 emplacements de villas gallo-romaines ainsi qu'un cimetière gallo-romain avec des urnes à incinération. Les villas les plus importantes découvertes dans notre zone sont celles de la Bussière-Étable, avec un cimetière gallo-romain, une baignoire, une sépulture avec un char, et puis Marron, dans la commune de Château-Ponsac. La Valette, dans la commune de Magnac-Laval, La Mazère, commune de Saint-Martin-le-Mont, nous nous intéresserons dans un instant à la description de cette villa. Dans bien d'autres cas, on a simplement trouvé des vestiges de constructions, comme par exemple à Chegey, dans la commune de Saint-Sulpice-les-Feuilles, où l'on a découvert des murs en stuc, recouverts de peinture, des pièces en marbre, des conduites en argile. Au Grand Chézeau, à l'emplacement du cimetière, on a découvert des colonnes de briques, des tuiles à rebord, des conduites d'eau. À Villefavard, des canalisations en ciment romain. Rares sont les communes où l'on n'a pas découvert de fragments de tuiles romaines, de tuiles à rebord, de tuiles courbes, comme à Mapiras, près de la Clodure, dans la commune de Roussac, des vestiges de constructions en gros appareils, des fragments de poterie. Certains de ces domaines possédaient, outre les communs, les écuries, les logements des esclaves, des maisons de maître qui étaient équipées de salles de bain avec piscine et baignoire. Certaines même possédaient le chauffage central par circulation de l'air chaud sous les dallages et dans l'épaisseur des murs. L'installation de chauffage central, l'hypocauste de la villa de Puymaron, a été reconstituée au musée de Château-Pensac. Prenons l'exemple de la villa de La Mazère. Dans sa monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, Roger Drouot nous décrit la villa de La Mazère dans la commune de Saint-Martin-le-Mont. C'est dans des terres dépendant de ce domaine qu'ont été faites en 1898 par le propriétaire M. Maublanc d'intéressantes fouilles qui ont mis à jour une importante villa gallo-romaine. L'ensemble des constructions affectait la forme d'un T. À l'extrémité inférieure de la branche verticale se trouvait l'entrée ou profirium. Elle avait encore conservé son pavimentum composé de menus morceaux de briques, de tuiles, de pierres noyées dans un ciment. À la suite s'ouvrait l'atrium établi suivant les règles de l'architecture romaine, sa longueur représentant une fois et demie la largeur. Avec l'atrium, on entrait dans la partie de l'habitation réservée à la famille. Elle devait avoir ici grande allure. Elle comprenait en effet une grande cour de 40 mètres sur 30 mètres, bordée sur trois faces au moins, d'une rangée de colonnes de 0,70 de diamètre reposant sur un mur d'appui. Cette colonnade devait encadrer un jardin. Au centre, une dépression semble indiquer la place de l'impluvium. Sur la façade de gauche du péristyle s'ouvrent des chambres de grandeur inégale séparées par des corridors. Les bains se trouvaient à droite. Le caldarium, vaste massif en béton de forme circulaire, a été découvert. Derrière, on reconnaît le foyer formé de larges briques mises de champ. Des briques affectant la forme d'un quart de cylindre ont été trouvées à côté. Groupées 4 par 4, elles servaient probablement de piliers pour tenir le sol du tepidarium. Sur la droite et derrière, les fouilles ont révélé l'existence d'une piscine. Un tuyau de plomb y était encore adapté. Plus loin existent d'autres constructions séparées par un couloir qui paraît être le prolongement d'une aile du péristyle. 35 mètres plus loin, on a mis à jour un bâtiment composé d'une large chambre bordée de 3 autres pièces longues et étroites. Les fouilles ont également fait apparaître 5 pièces de monnaie, un petit buste d'Hermès en bronze, 3 ferments de portes tordues par le feu, une tête de femme en pierre calcaire, plusieurs squelettes, dont l'un gisait plié en deux sur le seuil de la porte, peut-être écrit Roger Drouot, un témoin du pillage de la villa, qui d'après les indices recueillis, fut ensuite incendié. Ces villas rustica concentrent tous les moyens de production et leurs possesseurs y détiennent un pouvoir absolu sur la familia, la famille au sens large, les parents, les esclaves, les artisans, les paysans. Notons cependant que pour les paysans esclaves, la villa est un lieu plutôt répulsif, car ils y vivent constamment sous le regard et l'autorité du maître. Aussi certains, pour quitter cette espèce de prison, s'échappent et vont s'installer dans les bois et dans les forêts. Ce sont ces villas rusticas qui sont à l'origine de nos paroisses, de nos villages, et qui ont donné les communes d'aujourd'hui. Les noms d'un très grand nombre de nos bourgs, de nos hameaux, viennent souvent du nom d'un homme latin, sans doute le propriétaire de la villa. En voici quelques exemples. Assius a donné Azalery, Blandius Blanzac, Potentius Château-Ponsac, Silius Sieux, Jouis Jouac, Lucius Lussac les Églises, Magnus Magnac Laval, Malius Maillac sur Benaise, Denicius d'Insac, Rufinius Rufignac à Blanzac et Lupinus Lubignac à Renac-la-Poste, etc., etc.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Les cimetières, les sépultures. À partir du 1er siècle, en Gaule romaine, on prit l'habitude d'incinérer les cadavres. Les cendres étaient ensuite recueillies dans une urne cinéraire, une espèce de peau en verre ou en terre, elle-même placée dans un coffre de pierre, généralement en granit. Cette boîte en pierre était couverte d'un couvercle lui-même en pierre. Ce couvercle pouvait avoir une forme particulière, celle d'une pomme de pin ou d'un chapeau de champignon, par exemple. De très nombreux coffres contenant des urnes cinéraires ont été découverts dans notre zone, souvent disséminés, parfois regroupés, comme s'il s'agissait d'un petit cimetière. Ce sont les champs d'urnes. C'est le cas à Laperus, dans la commune de Saint-Sulpice-les-Feuilles, au Vieux-Blas, commune de Bellac, au Logis, commune de Blanzac, à Rancon, près du bourg, à Chasseneuil, dans la même commune, à La Chassagne, commune de Saint-Sornin-le-Lac, à Touradi, dans la commune de Touron, à Croc, dans la commune de Baldan, où l'on a découvert 17 urnes, à La Villoret, à Montmeau, dans la commune de Château-Ponsac, etc. Dans les urnes, on trouve des cendres, des ossements humains calcinés, mais aussi des bijoux, des pièces de monnaie, des armes que portait le défunt au moment de l'incinération. En voici quelques exemples. Un anneau de bronze, un fragment de poignée d'épée dans une urne trouvée près d'Arnac-la-Poste. Un anneau de bronze, un as de cuivre de Claude Ier, qui fut empereur de Rome au 1er siècle, dans une urne trouvée à Montmeau, commune de Château-Ponsac. Une tête d'épingle en or, dans une urne découverte à Puy-Marron, dans la commune de Château-Ponsac également. Par la suite, vers le 3e siècle, le coffre de granit est remplacé par un simple pot de terre, par une pierre plate. C'est ainsi qu'à La Chassagne, commune de Saint-Sornin-le-Lac, à côté des coffres en pierre, on a trouvé de simples urnes en terre recouvertes d'une tuile romaine. À partir du 4e siècle, sous l'influence de la religion chrétienne, on abandonna peu à peu l'incinération pour l'inhumation. Les arts, les industries, les monnaies et les camps. On a trouvé, nous l'avons déjà dit, des bijoux, des fragments d'armes, des pièces de monnaie dans les urnes funéraires. Quelques statues, peu nombreuses, ont été mises à jour. Une tête d'homme en bronze et une tête de femme en pierre blanche à la Mazère, donc dans la commune de Saint-Martin-le-Mont. La statue d'un licteur romain, c'est un officier qui à Rome marchait devant les principaux magistrats en portant une hache entourée de faisceaux, à La Châtre, dans la commune de Magnac-Laval. Une statuette de bronze représentant Mercure à la Buffière-Étable, commune de Château-Ponsac. Une statue de Jupiter tenant une roue au petit Champagnac de Dompierre-les-Églises. Une statuette en terre cuite représentant un porc découvert à La Belge, dans la commune de Mézières-sur-Issoire. Les poteries ou fragments de poteries les plus nombreux furent découverts à Virevalais, dans la commune de Saint-Sulpice-les-Feuilles. Ce sont des poteries en terre noire ou en terre rouge. À la Bussière-Étable, on a découvert des cruches, des cruchettes, des assiettes, des coupes, des tasses, des terrines, des jattes, pour la plupart en argile de Lezou, dans le Puy-de-Dôme, qui était la principale officine des potiers gallo-romains. Les monnaies d'or, d'argent ou de bronze furent mises à jour à Lavaupeau, à la commune de Saint-Sulpice-les-Feuilles, à la Mazère, donc, de Saint-Martin-le-Mont, à la Croue de Cromat, à la Bussière-Étable de Château-Ponsac, à Mont-Lambert, dans la commune de Comprignac, où l'on découvrit dans un pot de terre noire un trésor contenant 120 monnaies romaines et près de 600 monnaies gauloises. À l'Écurat, dans la commune du Buis, où l'on a découvert de nombreuses pièces romaines allant de l'an 80 à l'an 192, etc. Pour terminer, deux mots sur les camps dits romains. On a découvert plusieurs enclos, ou du moins les traces d'enclos à La Rivaille de Bussière-Poitevine, la forêt de Gajoubert, chez Gura de Château-Ponsac avec une enceinte de plus d'un hectare, à Belness, dans la commune de Saint-Bonnet-de-Bellac, où l'enclos est circulaire, au Grand Fa, dans la commune de Saint-Léger-Magnazet, où l'enceinte fait 100 mètres sur 100. Elle est connue sous le nom de camp de César. Au Martinet, dans la commune d'Arnac-la-Poste, à Châteaubrun, dans la commune de Nouic. Ce sont souvent des enceintes de petite dimension, sans doute destinées aux troupes auxiliaires des Romains. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche consacrée aujourd'hui à la Basse Marche à l'époque gallo-romaine. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Désiré Brélingard, de Jean Perrier, René Bobéro, Roger Drouot, René Lacote et l'abbé Roy Perfitte. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel à une musique composée à partir des musiques romaines avec lyre, sitar, holos, cornue romaine, percussion et voix. Je vous rappelle que la réalisation technique de cette émission est assurée par Philippe Quiquempois et Gérard Schillinger. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.